Même audio, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'entendre.
On reviendra sur la partie de l'écriture de l'histoire, justement. Comment est-ce que vous avez pu établir cette participation de votre père à ces crimes? Vous parliez de...
Comment je l'ai établi?
Oui, sur quelle source, finalement, quel document?
J'ai choisi de travailler sur 4 massacres en particulier. L'un était un tout petit peu connu parce que un immense historien de la Shoah, un Américain dont le nom m'échappe.
Paxton. Hein? Paxton.
Non, pas Paxton.
Ah oui.
Paxton, dont le nom m'échappe, mais il va me revenir. On dit quelques lignes. Des Français ont participé dans le camp de Krusina en Pologne à un massacre de Juifs. Voilà. Et le document. Il cite un rapport, on appelle ça le rapport Egger, et il va me falloir 18 mois pour l'obtenir de la part de l'Institut de la mémoire polonaise, qui est un institut incroyable où il faut des heures, des années, des mois de patience pour obtenir un document. Bon. Mais j'obtiens 16 pages, et ces 16 pages sont à la fois un rapport Egger d'un lieutenant, de son chef, de son supérieur, et puis d'autres officiers de la Wehrmacht qui confirment que, oui, les Français ont participé à ce massacre. On n'arrive pas à déterminer le nombre de Juifs assassinés, mais ce qu'on on mesure très très bien, c'est l'enthousiasme des Français. Les Géorgiens refusent de participer à cette opération. Ils refusent. Voilà, les Français y vont la fleur au fusil. Après, il y a un massacre qui était connu aussi, qui était parce que le capitaine Simoni, qui a été relevé de ses fonctions parce qu'il était trop sanguinaire, et il se défend en disant « j'ai suivi les instructions », ce en quoi il a raison. Mais il oublie d'ajouter une chose, c'est que dans la Wehrmacht, vous pouviez faire des massacres. Vous pouviez massacrer tout un village, mais il fallait l'ordre d'un commandant. Et c'est pas un petit capitaine français qui pouvait décider de massacrer 2 villages, Sitch et Tchernevitchi. Ça, il pouvait pas. Il l'a fait. Et comme il l'a fait, sans ordre, il a été renvoyé en France. C'est pas parce qu'il a commis des atrocités. Les atrocités, c'était quotidien. C'était pas du tout pour le sanctionner là-dessus. Et puis, les autres massacres, c'est un massacre très touchant près d'une gare de triage. C'est le massacre de la communauté juive de Kostukovitchi. Dans la gare de Komunari. Et là, j'établis pas la participation parce que je n'ai pas de témoignages qui me disent « nous avons participé ». Je pense qu'ils y ont participé. Ce que j'établis, c'est qu'un poste de Français qui s'appelle Mathilde, le poste s'appelle Mathilde, et le nom Mathilde est écrit entre la gare et la fosse. Donc, ils étaient là depuis 3 mois et pour 3 mois encore. Donc, c'est pas en passant, c'est pas 2 jours je suis passé dans le village. Ils étaient là. Voilà, ils connaissaient la population, les postes étaient le long de la voie de chemin de fer, et donc leur présence est, à mon avis, irréfutable. Je souhaite que les historiens s'emparent du sujet et me disent non, vous vous trompez, c'est possible. Enfin, ça me paraît très 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 très, très difficile. Bon, et puis le dernier massacre m'échappe. Mais j'ai choisi de travailler avec les témoignages d'eux, leurs témoignages à eux. Ah oui, dans un petit village, alors c'est un village dont je ne connais pas le nom, là j'ai un témoignage d'un certain Aubert, ça c'est un témoignage qui est poignant, parce qu'il donne les noms, c'est un témoignage circonstancié. Les journalistes et les historiens cherchent ce type de témoignage où on a la date, où on a le lieu, alors là on a le lieu grossier. On n'a pas le nom du village, mais vous avez suffisamment d'éléments qui vous permettent de dire « Ok, j'ai compris, il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel. » Il donne la ligne de commandement et il décrit, avec des erreurs qui sont inévitables dans les documents historiques, et il dit « Voilà, Berthe de Lyon vient de tuer une femme. Oh » tombe dans la fosse, qui laisse tomber son bébé. Il ramasse le bébé par la jambe et il lui loge une balle dans la tête. Il s'appelle Berthe de Lyon. C'est ça que j'ai trouvé de plus difficile, de plus poignant, de plus terrible, c'est de découvrir que le mec s'appelle Berthe. Il s'appelle Dourou, il s'appelle Cordonnier, je le dis à un moment, il y a des moutons, il y a des bergers, il y a des, toute la France est là. Il faut ajouter, parce que la France est la France, qu'il y a un nombre d'étrangers qui est assez étonnant, de Polonais, d'Italiens, d'Espagnols, parce que nous sommes comme ça, parce que nous sommes accueillants, et que ces gens, si j'ose dire, s'engagent dans la Légion étrangère. Bon, voilà, c'est la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Les promoteurs du départ se disent, on va envoyer des Français. Oui, ben, ils envoient des Français, mais les gars s'appellent Slivinski et des Hongrois. Il y a aussi des Hongrois, il y a des Tchèques, il y a des. Bon, c'est formidable de diversité et de. Enfin, pour des xénophobes, je les ai trouvés très accueillants, quoi.
Alors, oui, effectivement, dans l'ouvrage, lorsque vous exposez un petit peu la manière dont vous avez travaillé, sur quelles archives, vous écrivez que le mythe d'une LVF propre, avec des guillemets, ne résiste pas vraiment à l'examen des documents. Vous venez d'en apporter que le mythe d'une LVF propre qu'ont essayé de porter les anciens.
Non, qui disaient non parce qu'il y a 25 livres qui racontent une histoire formidable. C'est des gars, c'est des anciens, donc ils y étaient, donc ils savaient. Et il s'appelle Labat, il s'appelle Ruscon, il s'appelle il y en a 20-25 qui sont des livres plutôt sympathiques. On était là-bas, bon, il y a des jeunes filles, alors on va pas parler de viol. Oui, non, on faisait des fêtes le soir, etc. C'est de l'habillage épouvantable.
Alors, pour autant, pour mesurer le triste passage de cette période-là, la Biélorussie a perdu près d'un quart de sa population sur la période 42-43.
La Biélorussie, on estime, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, en France, ça parle un peu, on estime à 600 à 800 oradours sur glane. 600 à 800. Et c'est pas. Je veux dire, c'est. La Biélorussie est une terre de charniers. Voilà. Avec quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est que si vous allez à Oradour-sur-Glane, vous voyez tout. Il y a tout. Il y a les enseignes, il y a les voitures, il y a les murs, il y a l'église, il y a. Vous voyez tout. Là-bas, un village massacré, on vous dit c'est là. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Vous cherchez, il n'y a même pas deux pierres. C'est-à-dire que tout a brûlé. Les toits étaient en chaume, les maisons étaient en bois. Il n'y a plus rien. C'est très, très étonnant.
Alors on brosse à grands traits parce qu'on est limité dans le temps. Puis on aimerait tous les deux que vous ayez aussi l'occasion d'intervenir. Je vous renvoie pour les détails à l'ouvrage de Philippe Dourou qui est extrêmement bien détaillé. On arrive pratiquement sur ce moment à la fin de l'histoire de la LVF. Hein, puisqu'en 1944, les Soviétiques lancent une opération, l'opération Bagration. Votre père participe à la bataille de Bobre. Je lis les notes, je ne suis pas certain de le prononcer correctement, mais en juin 1944, le débarquement allié a eu lieu en Europe, mais il y a cette attaque-là. Une offensive massive soviétique. Et là, c'est la fin de la LVF.
Oui, c'est la fin de la LVF parce que à Bagration, ils sont effectivement au front. Bobre est vraiment en première ligne. Enfin, ils se retrouvent en première ligne parce que l'armée russe, l'armée soviétique avance à une vitesse folle et bouscule absolument tout. Et pour essayer de faire une retraite à peu près ordonnée, il faut essayer de contenir le plus longtemps possible l'ennemi pour que derrière on puisse organiser la retraite. Et ils y arrivent. Mon père se retrouve un peu plus loin que Bobre à faire. Les militaires ont parfois des expressions étonnantes. La manœuvre s'appelle enfant perdu. C'est-à-dire que vous demandez à des soldats d'être en première ligne, mais sans plus rien. Ils ont plus de. Il n'y a pas besoin qu'ils gardent quoi que ce soit, juste les armes et les munitions. Et leur rôle est de se faire massacrer, de mourir en première ligne. Bon, il se trouve qu'il en réchappe et qu'il arrive à repartir à l'arrière, mais là, les Français vont être retirés du front parce qu'ils ne sont pas gérables dans ce type de combat. Ils ont été bons sur les opérations de nettoyage, si j'ose dire, mais sur le combat militaire coordonné, où il faut éviter l'encerclement des uns et donc reculer petit à petit, proprement, enfin, intelligemment, ils ne sont pas bons. Donc on les renvoie à l'arrière, complètement à l'arrière. Là, ils ont fini leur guerre pour un moment. Et c'est là où ils sont intégrés à la Waffen-SS. Parce qu'il y a une petite unité de Waffen-SS français. Ils ne sont pas très nombreux. 1 000 000 ont combattu en août 1944, donc juste après cette bataille de Bobre. Et c'est le rouleau compresseur. Ils font face à un rouleau compresseur. Donc ils vont avoir une retraite épouvantable jusqu'à ce qu'on les bascule dans la Waffen-SS. Là, ils sont à l'arrière, ils font de l'instruction.
Qui est plutôt une armée déjà idéologique du parti nazi, c'est quand même.
Oui, alors c'est là où on dit toujours la Waffen-SS, c'est affreux. Je dis, oui, c'est épouvantable d'un point de vue idéologique. Et puis on sait que la Waffen-SS est l'appareil militaire du parti nazi. Donc c'est une armée idéologiquement très puissante et qui va donner des bases idéologiques extrêmement fortes à l'instruction entre septembre 1944 et décembre 1944. Et j'espère que je ne me trompe plus sur les dates parce que je suis un peu perdu à un moment. Et donc, pendant 4 mois, il y a des cours de politique, de ce qu'on appelle la vision du monde en allemand. Et là, ils sont idéologisés, mais j'ai envie de dire ils l'étaient déjà. Je veux dire, les LVF et les Waffen-SS français se retrouvent dans la division Charlemagne. La Charlemagne, pourquoi Charlemagne? Parce que c'est le grand empire de Charlemagne qui recouvre et l'Allemagne, ce qui deviendra l'Allemagne, et la France, tout le nord de la France. Et donc, voilà, c'est la division Charlemagne, qui est une division militaire qui va se perdre totalement en Poméranie en 1945, en février 1945. Ils sont vraiment, alors là, pour le coup, jetés dans le conflit, jetés en première ligne. Ils s'installent à un endroit, à Hammerstein. On pense qu'ils vont pouvoir attendre un peu que les Russes arrivent, mais les Russes arrivent le soir même. Bon, ils n'ont pas de casque lourd. Ils n'ont pas de casque lourd pour tout le monde. Bon, c'est une défaite. Ils doivent fuir vers le nord. Certains se retrouvent au Danemark. D'autres passent le long de la Baltique et se retrouvent au nord de l'Allemagne. Pendant ce temps-là, mon père, d'ailleurs, pour l'instant, il est, lui, dans l'instruction au sud de Prague, dans une école d'officiers de la Waffen-SS, ce dont il est extrêmement fier, au sud de Berlin. Et au sud de Prague. Et donc, là, le 12 avril, 14 avril, je ne sais plus, il demande à rejoindre son unité, c'est-à-dire la Charlemagne. Il rejoint la Charlemagne au nord de Berlin. Et là, le 24 avril, ils ont reçu l'ordre de rejoindre Berlin. Et avec, on ne sait pas très bien, 150, 90, 200, je pense que 200 est inatteignable. Les anciens parlent de 300 hommes, ce qui est totalement impossible. Rejoignent le cœur de Berlin, parce que ce sont des gens fanatisés, totalement fanatisés, pour qui la mort ne compte pas. Ou plus exactement, mourir en héros est quelque chose de formidable. Et donc, ils rentrent dans Berlin et ils vont défendre un endroit que je trouve symboliquement épouvantable. Ils reculent, ils sont dans la grande Wilhelmstrasse, qui est une grande armée qui mène à la chancellerie. Et le dernier immeuble qu'ils défendent, leur dernier point de défense, c'est l'immeuble du RSHA. Le RSHA, c'est l'organisme central de répression du Reich, qui, entre autres, contrôle la Gestapo. Et aujourd'hui, vous pouvez le visiter à Berlin. C'est devenu un mémorial que je trouve assez beau. L'idée est bonne. Ils ont laissé en friche et ils ont construit dessus un bâtiment de fer sur pilotis. Et donc vous avez à la fois le spectacle de la ruine et puis ce bâtiment qui accueille des expositions, et vous avez la vue sur les caves, sur des caves, où on pense que la Gestapo a pu torturer. Et ben, c'est le dernier immeuble qu'ils défendent, le dernier immeuble auquel ils s'accrochent, le 1er mai 1945. Enfin, alors là, c'est là où mon père décrit ça. Et je suis assez content de ne pas l'avoir su quand il était en vie, puisque je le découvre dans un document que je trouve et qui date de 1972. Il combat avec un foulard de soie blanche et un cigare au bec. Voilà, le mec est dans un... Les mômes disent aujourd'hui, il se la joue. Il sait plus où il est. Je dis, il sait plus ce qu'il fait. Il fait du cinéma. Et donc, c'est de la folie pure. Je pense que là, on est dans de la folie pure. Voilà.
Alors c'est justement la question qu'on se pose, puisqu'effectivement, ils sont alors 200, 300, 400, j'ai trouvé plein de chiffres. Ils étaient 7000 lors de la création de la division Charlemagne. D'autres disent 5000. Bon, voilà, c'est compliqué de savoir. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a assez peu de travaux d'historiens, finalement, là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut penser ou qu'est-ce qu'on peut dire de l'état d'esprit à ce moment-là, de combattre-là? C'est un baroud d'honneur ou ils y croient encore?
Non, enfin.
Ils sont tellement loin.
Ils s'en foutent. Ils savent que l'arme miracle, qui aurait pu être la bombe atomique, hein, la première expérience de fission nucléaire, est réussie par une physicienne allemande et deux chimistes allemands en 1938. Bon. Mais elle n'arrivera pas, fort heureusement. Mais ils croient un peu en l'arme miracle. Hein. Il y a eu des armes extrêmement puissantes qui ont été développées, le V1, le V2, les premiers missiles balistiques, le premier drone, si j'ose dire, capable d'emporter des charges lourdes. Est-ce qu'ils y croient ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont dans une folie complète. Fenech est le chef de bataillon de mon père, et dont il est l'officier... L'officier de liaison. Pas de transmission de...
De liaison.
L'officier de liaison dit on va partir à l'ouest et on va reprendre le combat. En fait, ils ont loupé un train, c'est qu'il y a une sortie de Berlin par le nord, et eux, ils sont là... Et ils pensent qu'ils vont combattre encore. Alors, il y a une petite hypothèse, et on va combattre aux côtés des Américains. Mais ça, j'y crois pas du tout. Mais, et puis, se retourner contre les Russes. Et Patton a proposé ça, mais ça n'a jamais existé. Et eux, je pense qu'ils sont juste dans un délire quasiment mystique, d'incrédulité absolue. Ils sont ailleurs. Ils sont complètement ailleurs. Et donc, ils fuient dans Berlin. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que Berlin, il faut savoir qu'à ce moment-là, les Français sont soit aux eaux, soit à l'immeuble du RSHA. Qu'est-ce qui se passe dans Berlin quand les Russes ont gagné, ont atteint le Reichstag? Des commandes cars avec un officier allemand, un officier soviétique, un drapeau blanc, et dit on arrête le combat. Donc on arrête le combat. Et un certain nombre de Français partent dans le métro, essayent de fuir, ils se font rattraper. Mon père, assez discret, se détache de la colonne. Là, ça, c'est lui qui le raconte. Monte, se change et redescend. Et il fait la vache et le prisonnier, c'est-à-dire qu'il a un bleu de travail, il a un seau, des chiffons, et il traverse Berlin et il rentre en France. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Un autre me racontait, un de ses copains, Raoul Ginot, que à la sortie du zoo, il a quasiment une haie d'honneur, parce que les soviétiques n'ont rien à foutre de prendre des prisonniers encore. Ils en ont des prisonniers. Et ils sont en train de se bourrer et de violer les femmes. Voilà. Ça les préoccupe, ça les occupe. Et donc, les Français, ils peuvent repartir et beaucoup rentrent directement en France. J'ai un de ses copains, Jacques Franz, il est là au mois d'août. Bon, mon père, j'arrive pas bien à savoir. Je pense qu'il est là en septembre.
Oui, donc ce passage, bon, ce qu'on sait, alors 200, 300, 400 qui sont rentrés dans Berlin, à peu près 60 qui s'en sont sortis vivants, dont votre père, c'est en tout cas les chiffres que vous exposez. Comment ça se passe pour l'après-guerre? On est donc en 45, le 2 mai, Berlin est tombé, ouais. Le 8 mai, c'est ouais. La fin officielle de la guerre en Europe. Et la France rentre dans une période d'épuration. Comment s'en sort votre père?
Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de répression. Il y a une répression. Il y a une répression. Tous ceux qui sont partis à Sigmaringen, c'est-à-dire, si j'ose dire, les plus proches de Pétain, mis à part le maréchal Pétain, vont être fusillés. Voilà. Il faut quand même... c'est-à-dire que on dit toujours, bah oui, il n'y a pas eu de... Bon. En 1944, il y a un commissaire Léoni qui lance des enquêtes partout en France et qui va prendre toutes les listes, que moi j'ai reprises aussi, d'anciens Waffen-SS, d'anciens LVF. Et il va y avoir des procès. Il va y avoir des procès en 1944. En 1944, il y a un LVF c'est absolument terrible parce qu'il fait, c'est lui qui nous apporte un des témoignages essentiels sur la fosse qui se trouve à côté de la gare de Communary. Bon, mais il est fusillé. Donc il y en a qui sont fusillés. Mon père ne se fait pas prendre. Jacques Frantz ne se fait pas prendre. Jacques Frantz, si je le raconte, il reprend ses études. Bah ouais, vous rentrez de la guerre, vous étiez Waffen-SS, bah vous allez à Sciences Po, vous inscrivez, et puis voilà. Bon. Il y a eu des procès. Il y en a eu. Le problème, c'est qu'en 1944, on condamne. En 1945, on condamne. En 1946, on condamne moins. En 1947, encore moins. En 1948, moins. Et puis en 1951, il y a une amnistie. Et là, l'amnistie, elle dit, OK, on efface tout. Et puis on recommence à zéro. Et c'est là où il y a ce sentiment chez les Français de se dire, il y a eu une épuration extrêmement violente. Ce qui est intéressant, c'est que là, on s'en prend aux femmes, notamment. Qu'on va raser, etc. Mais la plupart vont s'en sortir sans encombre. Mon père est recherché en 46. Il y a une commission rogatoire pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Il risque 20 ans. C'est trahison. Il disparaît. Il va dans le sud à Juan-les-Pins. Il rencontre ma mère et il passe 6 ans là-bas. Il est condamné par contumace en 51, mais l'affaire n'est plus atteinte à la sûreté de l'État. C'est plus ça, on s'en fout. C'est reconstitution de Ligue dissoute. C'est-à-dire que, bon, ça paraît absurde. Il risquait 20 ans, il risque 3 mois. Et il prend 3 mois. Mais il ne les fera pas parce qu'il revient, parce qu'il y a la loi d'amnistie, il revient à Paris et il commence une carrière.
Alors, c'est vrai que vous faites bien de préciser qu'il y a eu effectivement une épuration, il y a eu des procès. Moi, j'ai cherché quelques chiffres. Je trouve 6000 condamnations à mort en 1945, dont 800 qui auraient été exécutés. Mais c'est vrai que beaucoup s'échappent. Les premières grâces, amnistie, on veut tourner la page, c'est 47, pardon. Et après, bah, effectivement, on réécrit l'histoire, on refoule les mémoires, c'est le mythe résistentialiste qui s'installe.
Oui, mais c'est là où moi j'étais au départ de mon enquête, j'étais quand même très en colère contre le résistentialisme. Je pense que la France a été résistante. Voilà. Mon sentiment, je suis comme Klarsfeld, sur ce point je le suis, sur d'autres non, mais sur ce point je le suis. Je pense qu'on peut dire que la France a été quand même un pays de résistance. Voilà. Il y a eu 76 000 déportés juifs depuis la France. Beaucoup de juifs ont été protégés, c'est vrai. Il y a eu quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas comme le Danemark. Le Danemark, c'est absolument extraordinaire. Tous les juifs ont été sauvés. Tous. Sans doute, il y a eu des victimes. Et aux Pays-Bas, c'est un massacre effroyable. Voilà. Donc la France est dans un entre-deux. On n'est ni les Pays-Bas, ni le Danemark, mais on est dans un entre-deux. Après, juste un mot sur les procès. C'était une mécanique judiciaire à vomir. Moi, le procès de Laval, et d'ailleurs, il a mis en colère un de mes... exemple, maître Leclerc, qui est spectateur, enfin son père surtout, le procès de Laval, c'est immonde. Voilà, c'est immonde. Et la plupart des gens sont condamnés. Il y a un très beau une très belle phrase d'un condamné à mort. Il va être condamné, il a fait 160 crimes, on s'est arrêté à 160 crimes parce qu'on n'en pouvait plus. C'était dans la région de Lyon et de Grenoble. Et il dit que c'est long, le chemin pour aller d'ici à l'échafaud. Bon, il va être exécuté en étant mi-janvier, il va être exécuté début mars, dans mon souvenir, ou peut-être début avril. Mais c'est très rapide, ils sont jugés en 3 jours, il y a même pas 3 jours, je crois que je pense que c'est dans la journée, et il y a 16 condamnés dans le box. Donc c'est une justice qui est épouvantable.
Et c'est vrai que les survivants entretiennent ce mythe du soldat courageux contre les Russes.
Oui, oui, c'est ça, c'est le mythe qui vient avec tous les anciens qui écrivent leurs mémoires, leurs bouquins. Voilà, on a été courageux, on a combattu contre l'armée soviétique, c'est faux.
Il y a même des anciens de la LVF et de la Waffen-SS qui ont créé des associations.
Oui, ils ont créé des associations. Il y a une association des fils d'anciens de la Waffen-SS et de la LVF, mais c'est assez anecdotique, c'est assez ridicule. C'est le seul avec lequel je me suis un peu accroché, parce que je rencontre aujourd'hui beaucoup d'anciens, enfin de fils d'anciens Waffen-SS, et c'est le seul avec qui j'ai une discussion que j'ai arrêtée, comme avec. Enfin, vous ne discutez pas, quoi. Oui, c'est Grenouillet, il s'appelle Grenouillet.
Mais ça a permis quand même d'imposer un récit héroïque, et on discutait cet après-midi sur cette question. Pourquoi les historiens français ont-ils ces crimes? Pourquoi ce retard? On voit qu'il y a quelques documentaires qui commencent à sortir. Votre ouvrage.
Ce qui est intéressant, c'est que moi, je me mets au travail en 2018. Et puis en 2020, je rencontre ce qui est devenu un ami, un documentariste qui a les carnets, qui a récupéré des images tournées là-bas par un LVF. Et il a les carnets de guerre de ce LVF, Ramacciotti, Ugo Ramacciotti. Il est extraordinaire, Ugo Ramacciotti. Il est italien, mais vraiment italien, il est né en Italie. Mais il aime la France, il respecte la France et il trouve que la France, ça vaut la peine. Il s'engage. Il dit « J'ai vu des horreurs ». C'est lui qui nous dit à Sitch et Tchernivitchi « Ce que j'ai vu est épouvantable ». Mais il reste. Allez comprendre. Bon, oui, donc ça donne un documentaire qui était sur France 5 à la fin du mois de mars, qui paraît-il n'est plus en ligne aujourd'hui, mais il va revenir, j'espère. Et donc ça, c'est un type qui a mon âge. Enfin non, il est un peu plus jeune. Puis là, il y a un jeune documentariste qui s'est mis en... Je l'ai rencontré, je ne sais plus, en novembre 24, en 2024. Et là, il travaille sur un documentaire de 2 fois 1 heure pour Arte, qui sortira, je pense, en février 2026. Donc il y a du travail qui est fait. Bon, je ne sais pas pourquoi l'institution universitaire académique s'est pas intéressée. Je veux dire, 2 livres, c'est quand même très peu. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'ai rencontré un doctorant qui me dit j'ai proposé la collaboration militaire comme sujet de thèse. On m'a dit non, il n'y a pas d'archives. Il avait raison, il n'y a pas d'archives sorties. Elles sont pas sorties. Donc moi, mes 37 000 archives, elles sont déposées aujourd'hui au mémorial de la Shoah. Et je suis touché parce que à Caen devrait démarrer, il y a une doctorante qui a été nommée pour travailler sur mes archives. Donc quelque chose bouge. Pourquoi il n'y a rien eu avant? Je suis sidéré, je sais pas.
D'autant qu'en 90, entre 1990 et 2000, il y a eu quand même 2 faits importants pour revenir sur ces mémoires refoulées. C'est l'ouverture des archives avec le procès Touvier, 94, ouais, et je vous l'avais cité tout à l'heure, le procès Papon, qui en plus durait très longtemps, ouais, était très, ouais, médiatisé. Ouais. Et malgré tout, il faut attendre finalement 2022, 23, 24, 25 pour que des auteurs dont vous, oui, sortiez quelques ouvrages sur le sujet.
Touvier, c'est intéressant parce qu'en 74, je crois, il faut vérifier, Pompidou le gracie.
Oui.
Le gracie, civilement. C'est-à-dire qu'il peut avoir un carnet de chèques et récupérer son héritage. Il fallait vraiment y penser. Et on va attendre, je crois, 20 ans pour qu'il soit jugé pour crimes contre l'humanité qui ne sont pas prescrits. C'est intéressant parce que Pompidou, alors son oncle était à la LVF, Frédéric Pompidou était soldat dans la Wehrmacht. C'est intéressant. Je ne crois pas du tout que Pompidou était un affreux collaborationniste et qu'il était au courant que la LVF avait participé à des massacres à l'Est. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, en 70-74, vous avez Le Chagrin et la Pitié. C'est un film extraordinaire que vous trouvez facilement sur YouTube. Et vous avez un Français de la Mazière, il a été Waffen-SS, et il raconte ça avec une désinvolture incroyable. Incroyable. C'est l'époque où Rebattet va à Radioscopie. Radioscopie, c'était une immense émission France Inter. Jacques Chancel était un immense interview. Il fait venir Rebattet. Rebattet, il dit, mais... Ouais. Oh, j'écrirai plus comme aujourd'hui. Hein. Enfin, comme hier, aujourd'hui, j'écrirai pas comme ça. Mais enfin, il faut quand même se souvenir de ce que les Juifs nous ont fait. On est en 69. Voilà. Donc, 74, c'est intéressant parce que il y a une espèce d'arrogance, on peut parler à nouveau. Et là, je suis tombé sur des archives que je vais utiliser pour un livre de 82, où Fenech, qui dirigeait mon père dans Berlin, dit les camps de concentration, les camps d'extermination, c'est comme les goulags. Et l'historien qui est en face de lui lui dit non, quand même, il y a une différence de nature. Non, je ne vois pas, pour les victimes, c'est la même chose. Bon. Et après, je ne sais pas pourquoi il faut autant de temps pour qu'on se penche sur cette question, pour qu'on se penche là-dessus, je ne sais pas. J'espère que les historiens, les grands historiens, Ingrao pour le combat, m'ont accompagné. Macha Serovitch m'a accompagné. Chapoutot m'a poussé, enfin m'a incité à faire ce livre et il a eu raison. Ils m'accompagnent tous. Là, j'ai vu Florent Braillard. Ils sont touchés, mais ils n'avaient pas fait le travail.
Alors, on peut rester très longtemps. Il y a beaucoup de questions que j'ai envie de vous poser, mais que je ne poserai pas parce que
faut laisser de la place au public.
Je vais vous en poser une dernière et peut-être deux ou trois quand même pendant l'échange. Ouais, mais 2000, on disait, c'est le retour des mémoires refoulées. Et puis, entre 2020 et 2025, là, c'est le regain du populisme, certaines nostalgies de l'autoritaire, la montée actuelle de l'extrême droite en France et en Europe. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'un fascisme ordinaire, contemporain ?
Bon, il faut être extrêmement prudent.
On revient à Arendt, en fait.
Oui, mais la spécificité du nazisme, c'est de condamner des gens pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est quelque chose. C'est un aboutissement. On n'en est pas là. On n'est pas là. Il ne faut pas faire de comparaisons qui ne tiennent pas. Ce n'est pas des comparaisons raisonnables. Je pense, c'est mon sentiment. Hein. Après, le fascisme est italien, cette espèce de totalitarisme fondé sur l'autoritarisme et sur le pouvoir donné à un seul homme. Oui, on voit des réminiscences. Évidemment que je vois des réminiscences. Je vois des réminiscences qui m'intéressent parce que la militarisation de la société, ça c'est intéressant pour caractériser le fascisme. Le pouvoir d'un seul homme, ça c'est intéressant pour caractériser un fascisme qui avance. Et le mépris absolu des faits et des lois. Ça, c'est un signe très, très fort. Donc, oui, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui remonte. Ce qui m'amuse, c'est que... le Rassemblement national populaire existait donc en 1941. Aujourd'hui, il s'appelle le Rassemblement national. C'est pas moi qui fais le rapprochement. C'est les mots. Voilà. Allons prudemment dans cette voie. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que on a changé de cible. Ça n'est plus le juif. Ça n'est plus le juif. Les juifs. Le juif. C'est l'immigré. C'est le musulman. C'est l'arabe. C'est le noir. Voilà. C'est la xénophobie. Et c'est le racisme. Oui, ça revient. Oui, évidemment. On peut me le contester.
Mémodio, une mémoire sonore.